C'est la bande originale avec Léla Kamerounadi.
Bonjour à tous.
Joséphine Braille.
Bonjour.
Christophe Bourseiller.
Bonjour.
Daniel Morand.
Oui, bonjour.
Richard Lornac.
Bonjour.
Et notre invité, monsieur Bernard Verbet.
Bonjour.
Léla, calme-toi.
Oui, c'est ça.
Tu es ridicule. Tu es ridicule. Tu es ridicule. Avant de recevoir également à ses côtés le docteur Sylvie Royan-Parola, mais je préfère le faire sobrement plutôt que de hurler votre nom dans des applaudissements. Vous êtes docteur.
Merci.
Voilà. C'est important de le préciser. Bernard, merci d'être là.
Merci
à ce micro, vous êtes sûr de la manière dont vous mettez ce casque? Oui, gardez-le comme ça. voici des questions sur Bernard Verbet, savoir si vous avez bossé le dossier ou pas. Les romans, tous les romans de Bernard Verbet, ont pratiquement tous, en tout cas, ont une particularité.
Ils sont longs.
c'est clair que c'est pas du 50 pages.
Ils sont traduits dans de nombreuses langues.
C'est une particularité qui, à mon avis, relève de la superstition.
Le nombre de pages est...
Non, le nombre de pages est équivalent.
En exergue, il y a toujours une dédicace.
Non.
Il y a toujours le même mot au début ou à la fin.
Non.
Ou dans le livre.
Non.
Il y a toujours une même phrase qui revient.
Non.
Il n'écrit pas le nom de Dieu, par superstition.
Non.
Il ne parle pas de moi.
Alors, t'as mal lu. Il y a plein de trucs.
C'est vrai.
Il y a des gros cours dans le livre. Il y a des gros
Ça fait un doublon avec vous, Nagui. C'est d'un point...
Ça sort chaque fois.
Le 1er octobre.
Et voilà. De la superstition, ça.
Et pourquoi Non, c'est pour être sûr de bosser, pour être sûr de ne pas traîner, de sortir un livre tous les deux ans. Voilà. Et puis, mon anniversaire tombe le 18 septembre. En général, j'ai le livre pile le 18 septembre. Voilà. C'est les rendez-vous. Je crois que ce métier, c'est pas un truc de sprint,
Bernard,
c'est un truc de marathon.
Bernard, vous foutez de ma gueule. Je sors toujours mes livres le 1er octobre parce que je suis né le 18 septembre. Ok.
Vous
avez deux heures de réflexion.
On l'a 15 jours avant. On a le livre 15 jours avant en général.
Okay. Voilà. C'est ça qui me manquait, d'accord.
C'était, en général, c'était ça tombe pile le jour de mon anniversaire, j'ai l'objet dans les mains. Voilà.
Très bien. Dans quel pays, Bernard, vend-il le plus de livres? Puisque Léla a raison de préciser.
Non, la Corée du Sud.
Du Sud.
Exactement. Oui, Corée du Nord, il n'y a pas de livres.
Oui, c'est plus compliqué, mais.
C'est ça.
Il
doit y en avoir, mais il y en a un seul.
Et qu'est-ce qui fait que les Coréens, et particulièrement la Corée du Sud, aiment vos livres?
D'abord, ils lisent beaucoup plus qu'en France, proportionnellement. Oui, et puis ensuite, ils sont curieux de... En fait, s'ils sont très tournés vers le futur, nous avons en France, je crois, une petite nostalgie de notre passé qui font que le futur nous fait peur. Et en Corée, ils ont un futur qui ne peut être que mieux que leur passé, parce que leur passé est horrible. Mmh. Ils sont sortis de la dictature vers les années 80. Donc maintenant, ils se disent, oublions le passé et regardons comment le monde peut évoluer et comment nous être les meilleurs dans ce futur. Donc vu que mes livres parlent du futur et comment améliorer le futur, ils se sentent bien dedans, je crois. Hein. Maintenant, il faudrait les interviewer directement.
Ça voudrait donc dire que, ne serait-ce que nous, en France, pour qu'on ait un futur encore meilleur, il faut juste se rappeler des horreurs du passé?
Il faut se rappeler des erreurs du passé et puis il faut avoir envie
des horreurs.
Ouais. Mais il faut avoir aussi utiliser ce petit facteur tout simple qu'on a dans notre cerveau qui s'appelle l'imagination. Et il faut arrêter de dire que ceux qui ont de l'imagination sont forcément des délirants ou sont des enfants. Au contraire, on sera sauvé par les gens qui regardent devant et qui essaient d'imaginer comment les choses vont s'arranger. Pas tous ceux qui nous disent « ayez peur, on va vers la catastrophe », mais plutôt ceux qui disent « voilà, il peut exister cette solution, il suffit d'essayer de les mettre en place ».
Allez, dernière question sur Bernard Verbet. À quoi servait la gomme qu'utilisait son professeur de piano quand Bernard était petit?
À lui jeter dessus?
Non, c'est pire.
À lui mettre dans le nez,
oui.
C'est pire.
Il n'y a pas d'orifice.
Vous avez prouvé ça.
Elle était en équilibre.
Oui.
Et si elle tombait, vous tapez une baffe.
Exactement.
Oui, oui, oui.
Un équilibre où?
En équilibre sur les mains, posé sur le dos de la main pendant qu'il jouait du piano.
C'est impossible.
Et si la gomme tombait, vous aviez une punition corporelle.
Sachez ça. Oui, bah alors je ne sais pas pourquoi le piano est un instrument qui entraîne ce genre de discipline. Ma mère était prof de piano, elle ne faisait pas ça. Mais le prof de piano qu'elle a pris, oui, en effet, il me posait la gomme sur
les doigts. Mes enfants, un prof de piano, si jamais le prof lève la main sur eux, c'est la gomme, je sais, je vais la lui mettre.
C'était peut-être une autre époque, parce que les professeurs, on avait des châtiments corporels aussi en cours. Ils nous tiraient par les pattes, là, ils faisaient tourner les pattes et ils nous soulevaient. Ça peut paraître nostalgique.
Tirer la mèche des cheveux, c'est ça?
Oui,
étymologie de méchant.
Voilà,
tu
exactement.
Parles. Ouais. Okay, parce que dans le livre, il y en a des étymologies qui sont bizarres, comme maladie. Hein, j'ai
en tout cas,
du mal
c'est,
à dire.
C'est très bizarre parce que Bernard se rappelle de tous ses sévices avec un grand sourire.
Il y a un moment, il faut se dire, ok, c'est bien d'en être sorti. Moi, je suis content d'être sorti de l'école, je suis content d'être sorti même de Toulouse et d'avoir découvert Paris, de redémarrer une nouvelle vie. Parce que l'enfance, en fait, c'est pas génial. Hein. Enfin, moi, je me suis plutôt bien emmerdé dans mon enfance. J'étais tout content de devenir adulte, faire des trucs et de devenir écrivain.
Eh bien, alors, j'aimerais tout trouver parce qu'on va parler de ce roman, Le Sixième Sommeil chez Albin Michel. C'est pas soporifique, mais c'est un pavé, en tout cas. Hein. Comme vous dites aussi, vous expliquez même dans le livre qu'il est bon de lire pour mieux dormir. C'est bien de lire un tout petit peu pour bien s'endormir et partir dans un sommeil profond. On va parler de ce sixième sommeil et de tout ce qui se passe parce que l'enfance est très présente aussi. Ouais. Le rapport mère-fils entre Caroline et Jacques très présent puisque Caroline Klein est une spécialiste, une scientifique et notamment elle étudie le sommeil et découvre ce sixième sommeil. Alors il y a 5 stades du sommeil.
Connu
pour l'instant, oui, vous a apporté un sixième sommeil voilà. Possible. Il y a le sommeil léger, voilà. Le sommeil très léger, le sommeil profond, le sommeil très profond et le sommeil paradoxal. J'ai bien voilà. Retenu la leçon ?
C'est oui. Assoupissement, sommeil léger, sommeil lent, sommeil très profond,
oui,
sommeil paradoxal.
C'est l'idée. Voilà. Mais sommeil paradoxal.
Tu fais des efforts, toi,
c'est la terminologie. Eh ben
moi, sauf que moi, j'ai fait de mémoire. Oui, et toi, t'as lu.
Et alors, peu importe, c'est faux.
Nagui, c'est la quatrième de couverture, c'est ce que vous lisez d'habitude.
Il
y a plus de souvenirs, quand même.
Bernard peut le prouver, j'ai été les yeux dans les yeux quand j'ai essayé de donner les 5 sommeils. Et arrive donc ce sixième. Alors, dans le livre. Et c'est ça qui est assez fort et passionnant, comme tous les livres que vous faites, sont extrêmement étayés d'un point de vue scientifique. Vous dites que nous dormons, et ça on peut faire le calcul tout seul dans son coin, un tiers de notre vie. Donc 8 heures de sommeil pour 24 heures de vie en une journée. Donc un tiers de notre vie, on la passe à dormir.
Pour 30 ans pour ceux qui vont vivre 90 ans.
Voilà. Et qu'un douzième de ce temps, de notre vie, est passé à rêver. Alors là, c'est plus difficile de chronométrer la durée de ses rêves.
C'est pas une moyenne. C'est la moyenne que j'ai trouvée en discutant avec
mais qui est scientifique.
Oui.
D'accord. Et là, tout le livre, évidemment que c'est un roman, c'est une histoire. Il y a, ça peut presque devenir un roman policier ou d'aventure.
Fiction
ou d'aventure à la fin. Merci. Ce qui est formidable, c'est que cette Caroline Klein trouve un sixième sommeil encore plus profond. Elle le trouve même au péril de la vie d'un cobaye dans un laboratoire, ce qui la met en porte-à-faux avec l'université dans laquelle elle exerce. Mais elle découvre qu'il y a ce sixième sommeil où là, on peut non seulement être en contact avec celui que l'on a été ou celui que l'on sera, mais on peut aussi soigner des plaies de notre présent.
Oui, exactement.
C'est un peu compliqué, je sais pas comment...
Et on peut traverser le temps.
Voilà.
Alors, on peut remonter le temps.
Il va rencontrer l'homme qu'il va être dans 20 ans, qui lui dit « Attends, je ne suis pas qu'un rêve, j'utilise le sixième sommeil, donc ce stade qui est un peu comme le nirvana qu'évoquent les hindous, c'est-à-dire un stade où le passé, le présent, le futur ne sont plus sur une ligne chronologique, mais on peut les avoir tous en même temps. Donc c'est l'endroit où on peut discuter avec le vieillard qu'on va devenir et avec l'enfant qu'on a été et essayer de les réconcilier. Donc en fait, c'est l'endroit idéal pour faire une psychanalyse instantanée.
Ça va beaucoup plus loin puisque il va y avoir, sans révéler la fin, il va y avoir une clinique du sommeil. Sans révéler les rebondissements, mais on a peur que cette connaissance, comme toute connaissance scientifique d'ailleurs, soit utilisée à des fins plus dangereuses, voire mortelles par l'armée en l'occurrence et par des soldats. Ça va plus loin parce que
ça met en péril des populations, les Sénois,
les Sénois
qui existent vraiment,
qui existent réellement. Qui ont été découverts en 1930, qui sont le peuple du sommeil. C'est-à-dire, c'est un peuple qui considère que l'éveil n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le moment où ils dorment. Et donc, s'ils rêvent qu'ils font l'amour avec une femme durant leur sommeil, ils doivent lui faire un cadeau au réveil. S'ils rêvent qu'ils font du mal à quelqu'un, ils doivent s'excuser au réveil. Et en fait, ils passent beaucoup de temps à dormir, beaucoup de temps à rêver. Et surtout, ils pratiquent le rêve lucide. Et le rêve lucide.
Avec le nombre de personnes avec qui j'ai fait l'amour, je devrais m'excuser plutôt au réveil. Hein, je suis en train de réaliser.
Alors, auprès de leur mari, tu veux dire.
Qui t'a dit là, c'était pas avec les maris qui faisaient l'amour.
Mais rêver,
c'est un rêve et pas un cauchemar.
Rêver est une activité très agréable et d'ailleurs la preuve qu'on est en phase
de sommeil
paradoxal, c'est l'érection.
Ouais, voilà. C'est l'érection.
Chez les femmes, il y a plus de doutes, mais chez les hommes, c'est très clair. D'ailleurs, on détecte le passage au sommeil paradoxal par l'observation de l'érection.
C'est ça.
Vous avez sommeil, Nagui.
Comment on arrive à parvenir au rêve lucide? Comment on y parvient?
Alors, il y a des techniques, justement, qu'on a découvert avec les Sénoïs. L'une d'entre elles consiste, par exemple, à se répéter tout le temps, est-ce que je rêve ou est-ce que je suis dans la réalité? Comme ça, quand on rêve, on continue de se poser cette question. Une autre technique consiste à avoir une petite lumière qui s'allume. Alors ça, c'est les machines. Peut-être le docteur à côté de moi, on s'en parlera, qui permet de savoir, tiens, quand vous voyez la lumière, c'est que vous êtes en train de rêver. Et la troisième technique consiste à observer ses mains. J'en parle dans le livre, à observer ses mains à l'extérieur, puis fermer les yeux, visualiser ses mains. Et après, quand on dort, on essaie de faire apparaître ses mains. Donc on invente une sorte de subjectivité, de caméra subjective dans le rêve. Et la première chose à faire quand on maîtrise le rêve lucide, c'est essayer de s'envoler. Donc on déploie ses bras et on essaie de se soulever au-dessus du sol, qui est un rêve extrêmement agréable.
Et vous racontez, que vous avez eu un rêve lucide, plusieurs rêves lucides.
Ouais. J'en ai eu deux dont je me souviens bien. C'est un où j'avais des ailes de chauve-souris et je volais dans Paris. Oui, mais c'était plus compliqué que ça. Parce que, en fait, je m'aperçois que ça faisait vachement mal aux épaules. Parce que je me disais, bon, ok, j'ai des ailes, je vole. Mais par contre, c'est très fatigant au niveau des articulations parce que j'étais pas échauffé.
Ah oui.
Et donc, je tombais devant un problème pratique.
Et vous le faisiez vraiment?
Mais dans mon rêve lucide, oui. Et je m'étais à planer au-dessus de la scène et je voyais qu'il y avait des peuples troglodytes qui étaient cachés, qu'on ne pouvait voir que quand on était placé sur la scène.
Mais c'est un rêve. À ce stade, Bernard, je suis obligé de donner le message traditionnel que le CSA nous demande de donner. La drogue, c'est de la merde.
Et l'alcool, c'est avec modération.
Un verre par un verre.
Je vais raconter un deuxième rêve lucide qui est encore plus troublant. C'est que je rêvais que je faisais un tour de magie et je disais aux gens, vous allez voir, enfin dans mon rêve, vous allez voir, je vais pouvoir disparaître. Et j'ai dit, tu vas pas y arriver. Et puis j'ai dit, regardez, 1, 2, 3. Et je disparaissais du monde du rêve. Et j'ouvrais les yeux dans mon lit. Je me disais, bon, maintenant ça va être bien. Et puis je referme les yeux. Je fais, vous voyez,
j'ai dit,
donc j'ai fait une bascule, monde de l'éveil et monde du sommeil.
Moi,
ça m'est arrivé qu'une fois.
J'ai rêvé que je volais une fois et j'étais sûr que c'était vrai. Et j'ai essayé de voler dans la vie réelle. Mais enfin, j'ai pas volé très loin, et je me suis lancé.
C'était pas la peine de le rajouter, ça, question.
Je suis pas jeté par la fenêtre, je vous rassure, sinon je suis toujours là. Mais vraiment, tellement j'avais l'impression que c'était vrai. Je peux très bien comprendre ce que dit Bernard de ce point de vue-là.
On a parlé du sixième sommeil ensemble, ce qui est impressionnant, c'est justement le point de vue scientifique, parce que on en reparlera tout à l'heure dans la BO de Bernard Werber. Vous êtes scientifique, puis journaliste.
J'étais journaliste scientifique, je fais de la criminologie, puis j'étais journaliste scientifique, mais mon travail consistait à aller voir les laboratoires et interviewer les scientifiques. Et c'est de là la science.
Et c'est de là justement où viennent toutes ces informations scientifiques. Et on ne sait plus trop si on est dans un roman ou dans un livre.
Alors c'est ça le problème. Ça vous a posé problème à un moment donné lorsque vous avez publié comment ça s'appelait L'Ultime Secret. À ce moment-là, je me souviens qu'il y a eu des polémiques où on disait mais finalement Bernard Werber, on ne sait pas s'il est dans le reportage scientifique ou dans un roman. Et il y a eu cette idée-là. Et souvent, lorsque on pense à vous, Bernard, on se dit mais finalement, est-ce que c'est un romancier, Bernard Werber, ou est-ce que c'est une sorte de gourou qui est avec comme ça, qui rêve éveillé, qui pratique le rêve lucide? Est-ce qu'il n'y a pas vous faites partie d'associations qui étudient comme ça les mondes paranormaux, pourrait-on dire? Est-ce que il n'y a pas cette dimension-là chez vous? Au fond, vous avez beaucoup souffert dans le passé d'une phrase, vous le dites vous-même, c'est dans votre livre, mais vous le citez souvent, le clou qui dépasse attire le marteau. Et est-ce qu'aujourd'hui vous n'êtes pas un clou qui dépasse fièrement?
D'abord, je crois que l'objectif d'un bon roman, c'est d'apprendre des choses à son lecteur. Donc, j'écris des romans pour leur faire découvrir des choses qu'ils ne connaissent pas. Je pense que le sommeil est un domaine qui est inexploré, dans lequel on a plein de choses à apprendre. Après, si les gens, en découvrant des choses sur le sommeil, se disent, s'intéressent à moi, j'allais dire, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'intéresser surtout à mon héros, Jacques Klein.
C'est vous?
Non, c'est vraiment un personnage, c'est comme Tintin pour Hergé, quoi. C'est une projection. Maintenant, l'idée, c'est que...
C'est une projection, donc.
C'est une projection. Il y a un peu de moi. Ouais. Mais l'idée, c'est que les gens, après avoir lu le sixième sommeil, dorment mieux et puis se disent, tiens, il y a peut-être des choses qui se passent durant mon sommeil qui sont passionnantes. Et pas juste, je recharge mes batteries comme on recharge un téléphone et puis le matin, ça y est, je suis prêt à refaire ma journée. Je crois que quand j'écris le livre, je me suis beaucoup plus intéressé à mon propre sommeil et j'espère que mes lecteurs, quand ils vont lire le livre, vont s'intéresser à leur sommeil.
Mais scientifiquement, c'est de l'invention ou est-ce que scientifiquement ça correspond? Vous faites comme Émile Zola.
Autrement dit, est-ce
qui
qu'il existe
une enquête
déjà
naturaliste?
Est-ce que le sixième sommeil existe ou pas?
Alors, moi, ce que
c'est
je fais, c'est que je
c'est ça, absolument.
Je pousse un tout petit peu. Je pousse un tout petit peu le réel pour lui faire un petit bâtard qui s'appelle le roman. C'est pour ça qu'il a écrit en gros roman. Je n'ai aucune prétention.
Donc le sixième sommeil n'existe pas.
Le deuxième sommeil, pour l'instant, n'existe pas.
Voilà.
Par contre,
pour l'instant, tu vois, il
nuance. Oui, mais en attendant, il faut quand même dire les choses.
Au stade où mes recherches sont, je ne peux pas vous confirmer.
Mais c'est pas du délire. C'est-à-dire, c'est pas du délire. D'ailleurs, à la fin, je parle, je spoil pas trop le livre, je peux vous le dire, je parle d'un système qui serait un capteur sur le. Voilà, la tonne. C'est-à-dire qui permettrait de récupérer en images nos rêves et de les montrer aux autres.
Et que Hollywood pourrait s'intéresser pour faire des super productions.
Non, mais. Voilà. Et ça a l'air complètement délirant, mais déjà, on arrive à capter, à regarder ce qui se passe par l'IRM, dans l'imagerie médicale. Mmh. On arrive à voir ce qui se passe dans le cerveau et à transformer ça en tâches. Donc il suffirait, moi j'ai juste poussé un peu plus le bouchon, j'ai dit, transformons ces tâches, interprétons-les pour avoir des personnages et on obtiendrait automatiquement des films.
Ah oui, mais ça va même plus loin en disant, c'est plus la peine de faire des guerres, maintenant ça devient des jeux vidéo, on n'a qu'à tuer quelqu'un dans notre rêve, c'est plus la peine d'aller le tuer.
Ça sauvera des vies, oui.
Ouais, ça sauvera des vies, c'est ça. Alors, docteur Sylvie Royan-Parola, vous êtes psychiatre, membre de l'European Sleep Research Society, membre de la Société française de recherche sur le sommeil, attachée à l'hôpital Antoine Béclair et présidente du réseau Morphée. Morphée, ça tombe bien, c'est le nom aussi de la clinique qui est dans le roman.
Je ne connaissais pas madame et on a discuté, c'est passionnant.
J'ai pu effectivement le lire. Et donc,
Alors vous êtes... Vous avez trouvé ça passionnant.
Oui.
C'est déjà intéressant
de le
savoir.
Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que finalement... ça centre les choses surtout sur le rêve. Et le rêve, dans notre société, on n'en parle pas, ou très peu. Et
On a des fois du mal à retenir aussi ces rêves. On ne se réveille pas tous les matins en se souvenant de...
On les oublie. Ouais. Effectivement, on n'apprend pas à s'en souvenir. Parce qu'effectivement, si tous les matins, on se dit en ouvrant les yeux, est-ce que j'ai rêvé ? On va petit à petit s'habituer à se souvenir d'un rêve.
Et un conseil pratique donné par Bernard Werber dans le livre.
De le noter.
Et deux, d'attendre la fin du cycle du sommeil pour ne pas interrompre ce rêve et l'avoir immédiatement en mémoire. Même avec des applications bâtardes qui ne marche pas toujours sur les smartphones.
Mais alors ça, c'est un conseil de Bernard Werber, le romancier, enfin...
De quoi noter ses rêves ?
Non, de
se réveiller à la fin d'un cycle. Ça, c'est médical.
C'est médical, c'est pratique. On le sait qu'il y a des cycles. Il y a, en gros, des cycles de 90 minutes. On plonge 5 fois dans la nuit, donc on a 5 rêves. Et en général, on se souvient plus facilement du dernier. Mais en fait, il y aurait 5 petits courts-métrages fantastiques qu'on reçoit. Et c'est l'idéal, c'est de s'en rappeler.
Et alors donc, oui, docteur, le sommeil, quand vous dites on s'intéresse moins aux rêves, moi, ce qui m'a passionné dans le livre de Bernard Werber, au-delà de l'histoire et de la fiction, voire la science-fiction, c'est cette capacité à maîtriser son sommeil. Est-ce que d'abord, vous dites qu'on n'est pas égaux face au sommeil, alors que lui, dans son livre, dit au contraire, nous sommes tous égaux, riches, pauvres, grands, petits, maigres, gros, peu importe, on a soit des problèmes avec le sommeil, soit on dort bien, soit on dort mal, et c'est pas un problème de repère dans la société ou de classe sociale.
Ah, c'est vrai que qu'on soit riche ou pauvre, on va rêver de la même façon, pas nécessairement les mêmes thèmes, mais il y a des thèmes qui sont absolument fondamentaux dans l'humanité, donc ça on va les retrouver chez tous. Mais la différence, c'est que vous avez effectivement des courts dormeurs et des longs dormeurs, donc les besoins de sommeil ne sont pas les mêmes. Ça ne veut pas dire que le sens du rêve, le sens du sommeil ou l'organisation du sommeil ne va pas être du même type selon les individus, ça reste vrai.
Il n'y a même pas une moyenne d'heures de sommeil nécessaire pour
un être humain ? C'est une moyenne, c'est-à-dire que quand vous ne faites pas partie de la moyenne, ça ne veut rien dire pour vous. Si vous êtes très court dormeur, vous avez besoin de 4 heures de sommeil par nuit, vous dire qu'il faut dormir 7 heures ou 8 heures par nuit ne correspond à rien.
D'accord.
Et ce besoin-là, on est obligé de le respecter. Voilà. On ne peut pas essayer de travailler pour réduire, par exemple, sa quantité de sommeil.
On peut réduire un petit peu son temps de sommeil, et ça a été fait au travers d'expériences. On arrive à réduire d'une heure et demie, mais au-delà, c'est difficile. Et il y a en plus une limite physiologique qui, en dessous de 5h30, est vraiment réservée à des gens... super spéciaux, quoi. Il faut qu'ils soient déjà programmés.
Laurent Ruquier, voilà. Pierre Arditi,
les navigateurs.
Et ils n'ont pas besoin de plus d'heures de sommeil. Mais est-ce qu'on a un rapport étrange avec le sommeil ? C'est-à-dire, pour certaines personnes, c'est du temps perdu. Pour d'autres, c'est vital. Ils ont besoin de sommeil pour récupérer leur voix. Je pense à des chanteurs qui ont besoin de X heures de sommeil pour retrouver une voix correcte.
On a tous une représentation mentale particulière de son sommeil avec des impératifs que l'on se met, qui sont des croyances. Hein. Et là-dessus, vous allez avoir des gens qui vont être persuadés que s'ils ne dorment pas tant d'heures et que ça ne s'est pas passé avant minuit, etc., vont être dans un état catastrophique. Et d'autres qui vont considérer que le sport, pour eux, c'est vraiment de réduire un maximum le temps de sommeil au détriment de leur santé.
Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux ? Parce que là, vous dites c'est ce que les gens pensent. Mais quelle est la réalité scientifique ?
La réalité, elle n'est jamais aussi tranché que ça, c'est toujours un intermédiaire. Il faut dormir autant de sommeil dont on a besoin pour être en forme le lendemain, donc ça veut dire des différences selon les gens, et puis après ça veut dire qu'il faut être aussi raisonnable. On ne peut pas être en train de comprimer son sommeil indéfiniment en dessous d'un certain temps, parce que là on se met en danger avec des conséquences, et vous le dites dans le livre, hein, qui touchent tous les aspects, que ce soit le poids, les problèmes métaboliques, que ce soit la mémoire, que ce soit l'immunité. On va se mettre très en danger si on ne dort plus suffisamment.
Ouais, le livre s'ouvre d'ailleurs sur la période de croissance du petit Jacques, en disant il faut dormir plus pour d'un coup, un, grandir, deux, que les neurones se contactent les uns avec les autres, se tissent leur toile pour que la mémoire fonctionne.
Et que scolairement, les notes soient meilleures.
Voilà, et que tout aille bien, Christophe.
Mais docteur, ce livre s'appelle le sixième sommeil. C'est l'idée qu'au-delà du sommeil profond, on entre quasiment en communication avec le divin, avec le collectif, on abolit l'espace et le temps. Bernard Werber parle de la noosphère, qui est une sorte de sphère astrale où il y a tous les rêves et où il y a aussi toutes les personnalités des gens défunts.
Je t'interromps parce que Madame baille dans le public, parce que apparemment, soit elle a pas assez dormi, soit c'est très chiant ce que tu dis.
C'est vrai, parce que c'est très chiant ce que je dis, bien sûr. Et donc ma question, est-ce que
en tout cas, Madame
croyez...
est très impolie parce qu'elle a pas mis la main devant la bouche.
En fait, c'est pas très poli.
C'est pas très poli.
C'est
non,
dommage.
Non,
c'est hein, dommage.
Plus,
un plan sur
Madame, il y a une carie. Il faudra aller consulter. Je la vois d'ici.
Bien sûr, Madame peut prendre le micro.
Non, non, je t'en prie.
Alors, Madame, par contre, vous qui êtes médecin, qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, docteur Sylvie.
Le sommeil, c'est du pipeau pour vous, ou est-ce que c'est une réalité scientifique possible ?
On est vraiment dans ce domaine-là et par rapport au sommeil, dans quelque chose qui va nécessairement changer dans les années à venir, dans ce que vous disiez par exemple avec l'imagerie qui est faite au cours du sommeil, ça ouvre réellement des portes et on a même pu transférer des ébauches de souvenirs de rêves. Enfin, chez des animaux, enfin, au travers de l'apprentissage. Donc, on voit bien qu'il y a des choses qui vont être vraiment une grande révolution.
On a fait ça sur des chats.
Oui. C'était des rats et chez des singes, je crois.
Dans le livre, c'est des chats.
Le chat était un animal vraiment
torturé.
Oui, aussi, mais qui a beaucoup rendu de service au sommeil, et entre autres avec les expériences de Michel Jouvet. Et il aimait beaucoup ses chats, même si effectivement il a été beaucoup attaqué aussi, comme tous les labos qui travaillent sur les animaux. Mais le chat a un sommeil très particulier au niveau du sommeil paradoxal, donc c'est pour ça qu'il est intéressant.
Et vous, et comme dans le livre, vous conseilleriez peut-être de prendre quelques produits pour descendre dans ce sommeil profond, dans ce sixième.
Non,
je ne conseille pas des produits.
Justement,
je
dis surtout pas de somnifères. Ça, c'est la règle number one.
Un petit pétard. Du poison, il dit.
Non, après, mon héros utilise des produits, mais voilà. C'est un doping parce que c'est des expériences scientifiques. Mais alors là, surtout, moi, ce que je conseille, c'est le sommeil naturel sans aucun produit.
De magnésium, de...
Oui, mais parce que c'est des scientifiques qui font des erreurs, mais je ne le prône pas.
Non, mais pas de produits quand le sommeil vient naturellement, mais vous racontiez que pendant l'écriture de votre livre, ou avant, vous aviez subi une grosse période d'insomnie.
Oui, j'ai eu un an d'insomnie, et puis j'ai fini par comprendre un terme qui résume toute la problématique, c'est le lâcher prise.
Oui.
C'est-à-dire que si on ne dort pas, eh ben, tant pis, on regarde la petite tache là-haut sur le plafond et on renonce à se battre, et surtout on ne prend pas de somnifères, parce que les somnifères par contre réduisent le temps des rêves.
Ça s'appelle le sixième sommeil, c'est passionnant et vous le constatez comme souvent et même tout le temps, les livres de Bernard Werber sont extrêmement étayés, reposent sur des données scientifiques mais permettent justement sa divagation de science-fiction et de partir dans un joli délire qui n'est peut-être pas loin d'une réalité à venir, mais c'est ça qui est passionnant. C'est chez Albin Michel, c'est Bernard Werber qui est notre invité.
La bande originale. Et voici l'humeur de Joséphine Drey. De quelle humeur es-tu, Jo?
Je m'adresse à Bernard déjà, excuse-moi Nagui.
Je t'en prie.
Bernard, vous parlez donc, on vient d'en parler, de 6 phases de sommeil. Bah écoutez, en tout cas, si vous passez une nuit avec moi, Bernard, je vous préviens, c'est bouillant. Hein. Alors, c'est même pas 9 semaines et demie, c'est plutôt 9 phases de sommeil et demie.
Carrément.
Alors bien sûr, ma nuit commence par les phases classiques dont on a parlé. Hein. Phase 1, je m'allonge, j'éteins la lumière et là... Merde, j'ai soif, donc je me relève, je bois, ensuite je me rallonge, et là, merde, j'ai envie de pisser. Oui, j'ai la vessie dans un jardin. Donc je me relève, mais sans rallumer. Donc je me cogne le petit doigt de pied dans une chaise.
Aïe.
Donc je passe par la phase non répertoriée du putain de sa mère, la pute, mon orteil. Voilà, cette phase 1 s'appelle donc la phase glou-glou-ps-aïe, qui dure 30 minutes, durant lesquelles je bois 3 litres et en urine 7. C'est le principe du sommeil dit liquide. Phase 2, je m'endors grâce à un moyen très simple. Je compte les moutons, mais pas les moutons, les mammifères qui portent les pulls. Non, les gens qui sont les vrais moutons, c'est-à-dire mes ex, et il y en a un paquet. Arnaud, Massimo, Tarek, Patrick, Sébastien, Nagui. C'est ce que les spécialistes appellent le sommeil lourd, parce que mes ex sont tous des gros boulets. Ensuite, phase 3, j'ai la bave aux lèvres qui fait une mini piscine sur le coussin, les cheveux trempés de sueur qui collent à l'oreiller comme les mains moites de Christophe Bourseiller après qu'il a regardé Basic Instinct. La petite... il s'est regardé les mains quand même. La petite goutte de pipi qui sort et qui fait une tache ressemblant un peu à la carte du Liechtenstein, puis de la Belgique, parfois même quand je suis bien détendue, de la Russie. Une fois la tache ressemblait à un continent, c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on dit être un continent. En gros, je deviens Aqua Boulevard. Hein. C'est le fameux sommeil du hammam marocain.
Je t'avais dit sois à l'aise, mais je pensais pas à ça.
Oui, exactement. Le hammam qui vient d'être fermé pour raison d'hygiène. Du coup, phase 4.
Lara Fabian.
Oui, bah oui, parce qu'en fait, c'est mon ronflement. Oui, à la place de faire ronf comme tout le monde, moi je ronfle du Lara Fabian. Et encore, je me plains pas, ma mère elle ronfle du Joe Star. Donc c'est ce qu'on appelle le sommeil chelou. Phase 5, mon voisin qui est là, mais ferme ta gueule la grosse. Voilà, c'est ce qu'on appelle en médecine du sommeil, faire chier son voisin. Évidemment, pour compenser, je passe en phase 6, à savoir la boulimie nocturne, on en parle aussi dans le livre. Alors à 3h du mat, c'est l'heure où on est capable d'expérimenter en cuisine, parce qu'on est trop déglingué pour se rendre compte que Brie de Meaux plus Nutella plus crevette, c'est interdit par la Convention de Genève. Donc vous voyez bien, quand je vous dis que c'est pas ma faute si je suis enrobée, c'est la faute au voisin. Mais ouais, c'est le principe du sommeil Guy Carlier. Oui, c'est ça. Ah bah, Carlier, c'est juste un maigre qu'on réveille toutes les nuits, hein, c'est simple. Ensuite, je roule jusqu'au lit en phase 7. Je m'approche de mon mec, je tente une phase sexuelle. Il me répond « dans tes rêves ». C'est le sommeil dit de la pauvre fille. Du coup, je me rendors d'ennui et je passe en phase 8. Alors là, c'est la phase, Bernard, que vous résumez. Imaginez que vous puissiez revenir 20 ans en arrière et retrouver en rêve la personne que vous avez été plus jeune. Que lui diriez-vous? Et là, donc, je voyage en 95 et je préviens la petite Joséphine de 10 ans. Joséphine, arrête tout de suite les glucides. Sinon, plus tard, au collège, les gens t'appelleront Grossbusters. Comment on t'appelle? Grossbusters! Et ensuite, tu devras t'humilier sexuellement pour espérer être en couple. Arrête de regarder Hélène et les garçons, c'est la dernière saison. Tous les comédiens vont aller en cure de désintox pour devenir serial killer. Et arrange-toi pour rencontrer un homme très riche, Joséphine. Même s'il a une casquette cangole à l'envers. Oui, on est en 95 quand même. Comme un monsieur qui s'appelle Nagui, par exemple. Il présente l'émission N'oubliez pas votre brosse à dents. Séduis-le et tu seras à l'abri du besoin au lieu d'accepter de jouer dans des pubs pour dire stop pour avoir tes 507 heures. Voilà. Enfin, ma dernière phase de sommeil, à peu près tout. La 9e phase où je peux aller voir la personne que je serai dans 20 ans. Et cette nuit, je me suis vue en 2035.
Alors
ouais, dans un ménage à trois avec Richard Lornac et Patrick Cohen. Ouais, j'étais à l'antenne toute la journée, j'avais arrêté d'être femme pétomane dans un cirque de province pour avoir mes cachets. Mais je n'avais plus le temps de dormir. Alors je pouvais pas prévenir la Joséphine de 2015 de se méfier des acides gras et de la présidente de la nation Marine Le Pen. Ma vie était un cauchemar. Ou alors était-ce un rêve? J'ai même envisagé de faire une cure d'insomnie pour me reposer un peu, c'est hyper crevant. Alors Bernard, une nuit avec moi, ça vous dit ou pas?
Mais avec plaisir.
Non, ça va pas.
Ça l'a pas découragé. Ça l'a pas découragé.
Ça marche.
Sur France Inter.
C'est pour la recherche, évidemment.
Ah, le sacrifice, c'est beau. C'est beau, Bernard.
C'est que scientifique, une nuit avec Joséphine, en fait. On va se balader dans le passé, justement, mais là, c'est de la radio, c'est pas du sommeil, c'est pas le sixième sommeil. C'est en 1968, dans la vie et de Bernard Werber, il y avait ça à la radio.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it.
Les Beatles sont et Jude en 68. Il se passait quoi, Leïla, à ce moment-là?
En 68, on lit Belle du Seigneur et on regarde les Shadok.
Et vous aviez sûrement des rêves quand vous étiez petit, puisqu'à l'âge de 7 ans, en vous nourrissant de bandes dessinées, ce qui est souvent le cas pour des enfants de cet âge-là, vous êtes attiré par les illustrations de Jules Verne. Et là, vous commencez à rêver de devenir inventeur.
Oui, j'ai commencé à fabriquer des vaisseaux spatiaux chez moi, ce qui prenait beaucoup de place et agaçait un peu ma famille. Mais j'ai des dessins de vaisseaux spatiaux tout le temps. Ouais, je sais pas d'où ça vient ça. Faut que j'aille prendre mes pilules.
Vous croyez aux extraterrestres?
J'espère surtout que eux croient en nous, parce que le drame, ça serait s'ils n'existaient pas. S'ils n'existaient pas, qu'on était seuls et qu'on fout en l'air cette planète, bah, après tout est froid et noir, ça serait vraiment nul. Donc j'espère qu'ils sont là.
Ce qui était fort chez Jules Verne, c'est que les trois quarts des choses, enfin je n'ai pas toute l'œuvre par cœur en mémoire, mais se sont avérées.
Oui, bon, les sous-marins, la conquête de la Lune, oui. Il y a des moments où il est allé quand même un peu loin.
Il avait même imaginé qu'on
décollerait
de Cap Canaveral pour aller sur... il avait repéré l'endroit d'où il fallait décoller pour aller sur la Lune.
Oui, et ce qui est marrant, c'est
c'était pas que de la science-fiction, quoi. Je veux dire, là, il y a eu... Ou alors,
Et d'ailleurs, Bernard a une explication dans son bouquin. Il explique que tous ces grands inventeurs, ces grands créateurs, c'est qu'ils sont rentrés en contact avec leur futur moi qui leur a dévoilé, donné des pistes.
Bah oui, mais de toute façon, ce qu'il y a, c'est que le rêve échappe à toutes les lois de la physique. Donc c'est pour ça que là, on n'est plus dans la science, on est dans la spiritualité. Et spiritualité, ça veut dire qu'on est connecté à ce qu'on veut. Après, si on n'y croit pas, on est connecté à rien. Et si on a envie d'y croire, on est connecté à quelque chose. C'est là le pouvoir de la pensée. Et c'est pour ça que tous mes bouquins, en fait, c'est juste l'idée, c'est prenez conscience que vous pouvez le faire. Mais vous choisissez, vous y allez pas. On fait ce qu'on veut.
Vous pensez que la science mène à la spiritualité?
Je crois que la spiritualité mène à la science, que les deux sont nécessaires, qu'on a un cerveau gauche et un cerveau droit. Il y en a un qui est pour la matérialité et l'autre qui est pour la poésie. Et les deux sont nécessaires, sont complémentaires.
1983. Every Breath You Take, c'était Police en 83. Il se passait quoi, Leïla ?
En 83, les États-Unis lancent la guerre des étoiles et nous, la retraite à 60 ans.
Et là, c'est le Bernard Werber, le journaliste, qui reçoit le prix de la Fondation News du meilleur jeune reporter qui vous octroie une bourse pour un reportage en Afrique et le premier contact avec les fourmis.
Les premiers contacts, Magnan. Les fourmis Magnan, qui sont un ruisseau, qui est en fait un fleuve de fourmis qui détruisent tout sur leur passage. Les fourmis, j'avais déjà rencontré dans les jardins.
J'imagine, oui.
Mais là, j'ai été recouvert, elles ont failli me bouffer. Donc c'était une expérience forte. Je me suis dit, tiens, je vais crever connement, bouffé par des fourmis. Et ça m'a un peu marqué, c'est vrai.
Vous avez été pigiste à l'événement du jeudi, au Point, à Ça m'intéresse, à Libé, au Nouvel Obs.
BSD aussi.
Ouais.
Astrapi aussi.
J'étais pigiste, donc en freelance, on essaie. Comme les intermittents du spectacle, on essaie de remplir nos cachets. Mais finalement, je suis resté surtout 7 ans au Nouvel Observateur.
Vous êtes arrêté en 90, ça s'est mal fini ?
Oui, je me suis présenté à un prix, qui était le prix de la Fondation Moum, et j'étais finaliste. Et alors là, mes collègues, l'expression que vous disiez tout à l'heure, le clou qui dépasse attire le marteau, et mes collègues sont tous ligués pour me foutre dehors. J'ai fait un an de chômage où j'ai pu terminer les fourmis.
Et c'est ce qui est arrivé en 91. That's me in the corner. J'ai commencé à écrire Les fourmis en 78 pour arriver en 91 à parachever votre œuvre, cette trilogie.
12 ans d'écriture, parce qu'il fallait que j'apprenne à faire du suspense.
Ouais,
la plus grande difficulté, c'est le suspense.
C'est colorier tous les hauts aussi, c'est du boulot quand même. Il se passait quoi en 91, Leïla ?
91, c'est la fin de l'apartheid et c'est le début de l'affaire du sang contaminé. Et puis George Bush se lance à la conquête du Koweït, ce qui met en péril les fourmis.
Oui, c'est-à-dire le livre est sorti, la guerre s'est arrêtée dimanche et le livre est sorti le lundi. Et franchement, si la guerre s'était poursuivie, vous n'auriez jamais entendu parler des fourmis parce que l'actualité est plus forte que les romans ne se vendent pas.
Vous croyez que ça a joué un rôle, la sortie de votre livre, pour la guerre ?
Non, vu que c'est sorti après. Mais en tout cas...
George Bush a dit, je vais arrêter parce que j'ai un livre à lire.
Les gars, arrêtez, il y a un livre qui sort.
Je ne peux pas faire deux trucs en même temps.
George Bush, les livres, il est lié à l'envers. Rappelez-vous des images qui avaient été faites. 15 millions d'exemplaires vendus des fourmis traduites en 35 langues, un succès qui dépasse l'entendement.
Bon,
honnêtement.
En tout cas, moi j'avais prévu d'en faire qu'un, et puis c'est quand je me suis aperçu que personne n'avait compris le livre, j'ai fait la suite. Et après, je suis rentré dans une dynamique où je me suis aperçu que je pouvais, parce que je savais pas que c'était un métier écrivain. Pour moi, c'était un hobby du dimanche, enfin pour même si je travaillais tous les jours à écrire, j'ai l'impression que les écrivains, c'est des gens qui faisaient ça comme ça de temps en temps durant les vacances. Et là, je me suis dit, bon, ben, vu que ça me rapporte plus que mon métier d'intermittent du journalisme, je me suis rentré dans une discipline qui est 4h30 tous les matins et depuis, j'ai jamais arrêté.
C'est rare d'entendre un auteur de dire, puisque ça me rapporte, je vais continuer et je vais bosser.
Ça voulait dire.
Non, mais c'est honnête parce que.
Mon succès, ça voulait dire que j'étais libre et tranquille
et c'est
pour faire le métier qui me plaît. Et
vous avez totalement le droit de vivre de votre passion parce que le discours de pourquoi tu veux être payé puisque t'es passionné, ce qu'on entend pour certains musiciens ou comédiens, non, ben ça va, tu t'amuses à faire de la musique, pourquoi tu voudrais en plus gagner ta vie et manger à ta faim.
C'est-à-dire qu'il y a 50 euros le feuillet quand t'es journaliste, il faut écrire les fourmis, quoi, c'est direct.
Alors d'où vient cet appétit de faire des romans aussi étoffés et aussi épais ?
D'abord, j'écris le roman que j'ai envie de lire, parce que je vais devoir le relire une centaine de fois, donc si je fais un truc ennuyeux, je vais me punir moi-même. Après, j'ai envie de faire un roman dans lequel il se passe tout le temps quelque chose, tout simplement parce que je crois que c'est du respect pour le lecteur. Je crois que la première politesse envers le lecteur, c'est qu'il ne s'ennuie pas. Et surtout, le devoir de l'auteur, c'est qu'il ne décroche pas.
Ah oui, il se passe des trucs régulièrement, ça on est d'accord. Voilà. Il y a pas de...
Mais c'est ce que j'attends des séries américaines, par exemple, que vous savez, ces grandes séries genre Game of Thrones, tout ça, dans lesquelles ça relance tout le temps. J'attends ce rythme qui est en fait de la musique. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a une petite musique à inventer et l'objectif, c'est tout le temps surprendre le lecteur afin qu'il ne découvre pas qu'il va y avoir la scène suivante et surtout qu'il ne découvre pas la fin.
Ça marche très bien, ça s'appelle Le Sixième Sommeil, le nouveau roman sorti un 1er octobre, donc ça fait pile un mois chez Albin Michel. C'est Bernard Werber qui est notre invité.
La bande originale, le guide sur France Inter.
Docteur Sylvie Royan-Parola, je voudrais profiter de votre présence et de tout ce sujet autour du rêve et donc du sommeil pour peut-être donner quelques conseils à nos auditeurs sur le bien dormir. Déjà, est-ce qu'il y a des recettes pour bien dormir? On a l'impression que beaucoup de personnes souffrent de ne pas soit suffisamment dormir, soit de ne pas avoir un sommeil suffisamment récupérateur.
Alors déjà, effectivement, il y a avant les recettes, disons, c'est que il y a un constat, plus on se préoccupe de son sommeil, plus ça va aller mal, quoi. Plus, par contre,
donc le fameux lâcher prise que proposait Bernard Werber tout à l'heure.
Par rapport à son sommeil, mieux ça va se passer, quel que soit le problème que l'on connaît au niveau de son sommeil. Après, il y a des choses qui sont très basiques, c'est-à-dire il faut aller se coucher aussi quand on a sommeil. Il y a des tas de gens qui s'imposent des rythmes qui ne sont pas les leurs. Et donc
la fameuse croyance de le sommeil avant minuit qu'on double.
Ça c'est
un truc de parents pour avoir la paix.
C'est vrai.
Non, les enfants doivent être vraiment couchés avant minuit. Oui. Mais pour les adultes, ça dépend. Si vous êtes du soir, c'est absolument pas le cas.
Donc c'est pas une vérité scientifique de se dire avant minuit.
Non. C'est, en fait, c'est basé sur le fait que effectivement, les premières heures du sommeil sont des heures de sommeil où il y a du sommeil profond. Donc c'est le sommeil le plus récupérateur sur le plan physique, sur le plan aussi de certaines formes de mémoire. Et donc, si on n'a vraiment pas ça, on n'est vraiment pas bien. Après, le sommeil est essentiellement constitué de sommeil léger, de sommeil du rêve. Donc, c'est un sommeil qui va être beaucoup plus important sur notre équilibre psychique, mais pas physique.
Est-ce que l'heure d'été empêche de dormir ?
Alors, l'heure d'été, en tout cas chez les enfants, par exemple...
Depuis une semaine, t'as un problème, toi.
Non, en heure d'hiver, là.
Oui, mais c'est le changement d'heure qui pose des problèmes, souvent.
Non, là, la question, c'est effectivement sur l'heure d'été.
Il y a des
gens qui ont des problèmes d'endormissement plus spécifiques au moment de l'heure d'été, et en particulier chez les petits, ça peut poser des problèmes pour arriver à les coucher.
J'arrive pas à coucher Christophe en ce moment.
C'est ça.
Infernal.
Alors, je vais vous poser différentes questions. Vous allez au fur et à mesure, si ça vous dérange pas, c'est mon syndrome animateur de jeu. Est-ce que il faut une lumière ou pas dans une chambre? Il faut le noir total ou une veilleuse?
Alors, l'idéal, c'est le noir total. Maintenant, si on est phobique, anxieux, etc., que la lumière permet de se sécuriser, il vaudra mieux une lampe.
Est-ce qu'il faut que le lit soit dur ou mou?
Ça dépend des gens.
Il faut tester.
Oui, parce que vous dites dur, vous plutôt dans le livre.
Mais c'est comme les voitures, je préfère les suspensions un peu dures.
Ouais. Ça tient mieux la route. Ouais. Est-ce qu'il il faut dormir sur le dos ou sur le ventre?
À peu près, il y a des études sur la position des gens. C'est presque un quart sur toutes les faces, ventre, côté, etc.
Je trouve que je rêve mieux sur le dos que sur le ventre.
Mais l'idéal, c'est sur le côté. Sur le côté parce qu'on a, tout le système qui... Vous avez moins de chances de ronfler.
Et quand tu vomis, tu t'étouffes pas.
Mais on bouge. On bouge nécessairement dans la nuit. Donc on passe par différentes positions.
Vous avez quoi comme conseil de
sommeil?
Est-ce qu'il faut ronfler?
Il faut, bah, genre tu décides, toi.
Si tu veux célibataire, si. Oui.
Non, mais... Si tu veux rester. Si on ronfle, ça veut dire quand même qu'il y a quelque chose qui, sur le plan respiratoire, ne se passe pas bien. C'est-à-dire qu'il y a un frottement au passage de l'air, donc nécessairement, il y a des voies respiratoires qui sont rétrécies. Et si elles se rétrécissent trop, ça va jusqu'à des apnées du sommeil. Ça, c'est
Est-ce
pas
qu'il
bon.
Faut faire l'amour avant de dormir pour bien dormir?
C'est bien, mais c'est pas nécessairement un signe de bon sommeil.
Est-ce qu'on peut faire l'amour avec quelqu'un qui dort?
C'est un bon somnifère.
Alors ça, c'est vraiment les
Parce
hommes.
Parce qu'on produit, on produit des endorphines, et les endorphines nous aident à mieux dormir. Donc faire l'amour, en tout cas, est une technique d'endormissement
pour les hommes.
Pour les hommes, ça marche.
Est-ce qu'il est préférable?
Non, ça marche aussi pour les femmes après qu'elles aient atteint l'orgasme. Tu verras.
J'attendais de te rencontrer. Tu sais comme je suis. J'attends toujours. Et est-ce qu'il est est-ce qu'il est préférable de se coucher à la même heure et de se réveiller à la même heure?
Alors ça, c'est très très important. La régularité des rythmes renforce nos horloges biologiques et la chronobiologie nécessite vraiment qu'il y ait des routines très régulières.
Ce qui est une catastrophe lorsqu'on part en vacances et qu'on se dit je vais pouvoir dormir plus longtemps, on se réveille mécaniquement, qu'on le veuille ou non, à l'heure où notre réveil était réglé en période de travail.
Et oui, mais ça, c'est, vous pouvez continuer sur ce rythme-là.
On est sur ce rythme-là.
C'est pas nécessairement un problème.
Non, mais si on aurait pu dormir une dizaine d'heures ou une douzaine d'heures. Et d'ailleurs, pardon Christophe, je te donne la parole en deux secondes.
Merci.
Est-ce que il y a des sommeils qui sont récupérateurs? Est-ce qu'on se dit, par exemple, j'ai dormi trois nuits uniquement avec 4-5 heures, mais c'est pas grave, je me rattraperai avec une quatrième nuit où là, je dormirai 12 heures. Ça marche ou pas?
On se rattrape pas sur une longue période. C'est-à-dire, du jour au lendemain, oui, si on a dormi très peu pour des raisons X, le lendemain, on va récupérer. Mais si vous faites pendant 3-4 jours une privation de sommeil, ce que vous allez récupérer le week-end ne sera pas du tout équivalent. Donc en fait, c'est la régularité, là encore, qui est importante.
Il y a quand même une chose, je veux rappeler, quand même, il y a la sieste qu'on a oubliée. Et,
voilà.
Et la sieste est une manière de récupérer alors qu'on n'a pas assez dormi.
Mais parce que vous y arrivez. Il y a plein de gens qui n'arrivent pas à faire de sieste.
Essayez.
Ou de micro-sieste.
Il y a des bars à sieste maintenant qui ouvrent un peu partout dans Paris.
Il y en a dans votre livre.
Voilà. Mais j'ai découvert ça. 10 euros pour rester étendu sur un lit, je trouve que c'est le commerce génial du futur.
Dans votre livre, il y a aussi tout un passage, bien sûr, c'est très important, sur le somnambulisme. Qu'est-ce qui fait qu'on devient somnambule?
C'est même flippant, oui.
Qu'est-ce qui fait? Il y a des prédispositions génétiques. C'est beaucoup plus lié au sommeil profond. Donc les enfants, globalement, sont beaucoup plus somnambules que chez les adultes. En fait, les adultes qui continuent à être somnambules sont rares, hein, c'est de l'ordre de 1%. Mais chez les enfants,
les
avez à peu près 10-12% des enfants de moins de 10 ans qui font un excès de somnambulisme, surtout les garçons.
Est-ce qu'à titre préventif, vous conseilleriez d'attacher les enfants au lit?
Non, mais je leur dirais quand même d'éviter les lits gigognes où ils sont en haut, parce que
et
ça peut tomber.
Il y a un truc dont on n'a pas parlé, je suis totalement d'accord avec Bernard Werber, mais je croyais... j'ai l'impression que c'était le cas et la facilité pour tout le monde, mais dans le livre, vous dites que c'est extrêmement rare, décider de son rêve. C'est-à-dire se coucher
subjoter.
Subjoter, ça c'est un drôle de mot.
Alors
ça.
J'ai trouvé ça sur Internet. D'ailleurs, j'ai remercié les inventeurs de ce mot. Subjoter, ça veut dire s'arrêter un rêve et comme un feuilleton le reprendre le lendemain à l'endroit où on s'est arrêté. Et comme ça, on a une sorte de série qui continue.
Oui, ou planter un scénario en disant je vais rêver que je suis au bord d'une plage de sable rose, et ainsi de suite. Je m'allonge, je dors et bing, on vit notre vie. Et là, vous n'êtes pas d'accord, Sylvie.
Bah, c'est pas encore comme ça, non.
Bah
mais
si,
on peut reprendre en cours de nuit. On peut arriver à reprendre.
Vous verrez, la nuit prochaine, je vous mets dans mon rêve et vous verrez que vous allez vivre un truc dingue.
Ah bah super.
Vous n'êtes pas venu pour rien.
Mais ça c'est et le reprendre. Je racontais ça tout à l'heure avant de démarrer cette émission. Interrompre un rêve et en se disant il n'est pas fini et le reprendre plus tard.
Ça peut arriver. Ah. Ça s'observe, oui.
Et puis il est aussi question dans le bouquin de narcolepsie. Parce qu'on a un personnage
Fouki Charras.
Voilà, qui est narcoleptique, cataleptique.
Un journaliste narcoleptique.
Voilà, un journaliste narcoleptique. Et là-dessus, docteur, est-ce qu'on avance bien?
On avance, oui, pas mal, mais c'est une maladie encore très handicapante. Parce qu'effectivement, s'endormir un peu n'importe quand et dans des situations justement qui sont... qui peuvent même mettre en danger
au volant,
un chirurgien.
Oui, mais à l'inverse aussi, et c'est ce que vous dites Bernard Werber dans votre livre, certaines horreurs de l'histoire n'auraient pas eu lieu si ça avait été des bons dormeurs, s'ils avaient récupéré, s'ils...
En tout cas, Napoléon se vantait de ne pas dormir beaucoup, mais je crois qu'il était tout simplement insomniaque. Et il y a beaucoup de...
Donc c'est pour ça qu'il a envahi le monde entier.
Voilà. Il avait du temps devant lui.
Einstein était un grand dormeur. Il dormait énormément et il disait que c'est là-dedans qu'il trouvait précisément toutes ses idées. Je ne sais pas. Je ne connais pas tous les...
Hitler, dans une biographie d'Hitler, en fait, il avait un sommeil décalé. Il s'endormait très tard, il se réveillait très tard. Ce qui était assez surprenant pour le personnage, mais je n'avais pas pensé ça.
Je vais juste continuer sur... Tout à l'heure, on parlait du jugeotage. Il peut être intéressant pour les gens qui font des cauchemars de noter leurs cauchemars et ensuite de mettre une fin heureuse à ce qui arrive de malheureux. Parce que le cauchemar a une fonction d'exorciste.
Le cauchemar est un rêve, de toute façon.
Le cauchemar est un rêve, mais il y a des gens...
C'est un sale rêve, mais c'est un rêve.
Voilà, mais il y a des gens qui sont après traumatisés par leur cauchemar, qui reviennent tous les soirs. Et il suffit déjà de l'écrire et puis de mettre une fin heureuse et de dire, voilà, et à la fin, finalement, c'est moi qui gagne et tout ce qui devait m'arriver de mauvais dans le rêve n'arrive pas.
Sortons un tout petit peu du, sortons du sommeil. Ne parlons pas que du sommeil, mais du rêve. Et puisque vous parlez d'écrire, rêver n'est pas qu'un palindrome, c'est aussi une nécessité.
Ah oui, absolument. Le travail, tout le travail du sommeil, tout le travail psychique se passe au travers du rêve. Le rêve, c'est un peu la concrétion de tout ce qui se déroule dans notre cerveau et qui va se cristalliser sous forme d'images, sous forme de personnages.
Alors le problème, c'est que moi je suis totalement d'accord avec vous, mais il y en a un qui n'est pas du tout, pas du tout d'accord.
Mais non, mais
c'est
non.
Daniel Morin,
bien évidemment. La bande originale. Bien évidemment, je ne suis pas d'accord avec Dr Sylvie. Enfin merde, à la fin, laissons pas dire n'importe quoi autour de cette table. Alors qu'est-ce qu'elle nous a dit, Dr Sylvie? Rien du tout. Ah si, plutôt, elle nous a dit, oui, comment réduire son temps de sommeil. Bon, on connaît, ça s'appelle un réveil, c'était pas la peine de faire tout un plat. Qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre? Ah ouais, pour bien dormir, faut y aller quand on a sommeil au lit. Bah oui, faut boire quand on a soif, ou manger quand on a faim, vous en avez d'autres comme ça. C'est un peu une honte, Dr Sylvie. En fait, on n'a rien appris. Hein. Le sommeil, la vraie question est-ce que c'est bénéfique ou est-ce que c'est néfaste? Et là, je peux vous dire que même moi, qui suis un spécialiste de beaucoup de choses, la réponse n'est pas évidente. Et pourtant, Dieu sait, je suis bien placé pour parler du sommeil. En effet, partageant mon quotidien avec des employés de Radio France, je peux vous dire que des gens qui pioncent, j'en vois toute la journée. Et je vous garantis qu'ils ne font pas semblant. Ce matin encore, dans le couloir, j'ai trébuché sur Hélène, la réalisatrice de l'émission, qui, après avoir pris ma godasse dans le foie, a laissé échapper en gémissant « C'est parce que tu crois, je ne dors pas, je travaille, je prépare l'émission ». Puis elle a essuyé le filet de bave sur sa joue. Filet de bave qui commençait à sécher. Elle s'est mise nue, elle a pris un bain froid dans le lavabo. Bon, elle n'est pas la seule, la pauvre Hélène. Elle fait partie de cette grande majorité du personnel de Radio France qui a besoin de ses 20 heures de sommeil par jour, si possible, en partie pendant les heures de travail. Bref, on n'est pas là pour parler de cette pauvre Hélène. Le dossier est trop épais et ça nous amènerait à parler de ses problèmes d'alcool et de sa nymphomanie chronique et on n'a pas le temps.
Non, puis c'est pas la place.
C'est pas la place. Le sommeil est pour certains un état de maintenance, une pause réparatrice. Il permet au corps l'abandon, à l'esprit, la mise en veille, à l'imagination, le vagabondage. Prends des notes, Sophie. Une fois réveillée...
Tu appelles Sophie.
Parce que j'ai écrit Sophie.
C'est une erreur.
Ah bah Sylvie, prends des notes. Une fois réveillée, la dure réalité du réel nous saute à la gueule. Fini le corps qui s'abandonne, il doit reprendre sa garde. Terminer l'esprit qui veille, il doit se remettre au taquet. Finito le vagabondage de l'imagination et les doux rêves quand on est réveillé. Sylvie, tu notes rien depuis tout à l'heure, tu vas rien te rappeler. Alors forcément, quand comme ma femme, on a la chance de se réveiller à côté de moi... On est soulagé que le sommeil ait pris congé et qu'enfin on retrouve la félicité du visage enchanteur et du corps de rêve qui accompagne ces nuits. C'est-à-dire moi. Excuse-moi. Ah là, tu prends des notes, Sylvie Germain. Par contre, quand, comme la plupart des gens en ce monde, on n'a pas la chance de se lever à mes côtés, je comprends que l'envie de dormir encore et encore soit prioritaire plutôt que de se lever sans pour autant tomber sur moi au final se dire. À quoi bon ? Mais assez parlé de moi, même si le sujet est passionnant. Pour en revenir au sommeil, le problème est que les gens qui ont le temps de dormir y arrivent de moins en moins pour cause de manque de fatigue. Par contre, ceux qui ont un emploi du temps trépidant sont exténués, mais ne veulent pas pioncer pour ne perdre miette de leur planning de rêve. Où donc est la solution ? Peut-être ici, en ce moment même, où je mélange envie de dormir et d'écouter à la fois en accaporant votre attention avec un raisonnement des plus soporifiques.
Merci Daniel.
La bande originale, Nagui. Sur France Inter.
Juste une question avant de vous remercier encore une fois Dr Sylvie Royan-Parola d'être venue. On a parlé du sommeil, on a parlé du rêve. Finissons sur le réveil. Est-ce qu'il y a une manière de se réveiller ? Est-ce qu'il faut se réveiller à la fin d'un cycle précis ?
Alors, idéalement, comme le sujet effectivement, il faut se réveiller à la fin d'un cycle. C'est-à-dire qu'en fait, il faut se réveiller dès que le réveil est spontané. Et la fonction snooze des réveils doit être complètement bannie. Parce qu'en fait, ça vous maintient
c'est quoi, snooze ?
Dans un espèce d'état...
C'est quand tu te réveilles et que tu t'appuies sur une touche pour te réveiller 9 minutes après.
Ah, oui, et on est beaucoup plus fatigué si on se lève après que si on s'est levé avant.
Mais si le réveil naturel se fait à 5h30 du matin, par exemple, et qu'on est plutôt à se lever à 7h.
Plutôt s'il se fait à 11h30.
Oui, voilà. Alors, bon, tout faut rester quand même dans des limites, disons, raisonnables. Mais pourquoi pas se lever de temps en temps à 5h30 du matin? Il y a une mode en ce moment qui est en train de
partir là-dessus. Par contre, oui, absolument. Mm-hmm. Mais je pense qu'il y a des milliers ou des millions de gens qui font, même autour de cette table, le réveil a sonné. On appuie, on se dit, c'est bon, j'ai encore 9 minutes, et on traîne. Alors là, c'est plus vraiment du sommeil, on traîne au lit, on ne se rendort pas vraiment, si ?
Si, on peut somnoler tout à fait, et après, quand et ça ressonne, parce qu'on a l'impression d'émerger d'un truc très difficile. En fait, nos horloges, il faut toujours les renforcer, et donc, dès qu'il y a un signal, il faut partir sur ce signal.
Merci, c'était le docteur Sylvie Royan-Parola. Portez-vous bien, dormez bien, Sylvie. Et puis, je vous retrouve dans mes rêves cette nuit. Et notre invité, Bernard Werber, le sixième sommeil, c'est chez Albin Michel, on en reparle après Travis. Il s'agit de Travis dans la bande originale de Bernard Werber. Alors Bernard, je vais commencer toutes mes phrases par « Je n'oublierai jamais » avec toutes les heures de sommeil et de rêve. Je suis sûr que vous avez plein de choses à nous raconter. C'est Richard Larnac qui nous accompagne. « Je n'oublierai jamais dans ma chambre d'enfant ».
Je n'oublierai jamais dans ma chambre d'enfant. Pff, je ne sais pas. quel élément, aidez-moi un peu.
Ah non, aucun élément à vous de me dire. Le souvenir que vous avez.
Je n'oublierai jamais dans ma chambre d'enfant le train électrique.
Je n'oublierai jamais... À l'école ?
Je n'oublierai jamais à l'école, j'avais discuté qu'avec les filles, je m'ennuie avec les garçons.
Je n'oublierai jamais mon premier souvenir, le plus lointain que vous ayez.
Mon premier souvenir, j'étais dans ma mère utilisait la machine à coudre et elle me poussait parce que j'étais à quatre pattes. Et je rêvais un jour d'atteindre les poignées de porte. Et je me disais, quand je serai plus grand, j'arriverai à atteindre les poignées de porte et enfin, je pourrai maîtriser ma circulation dans l'appartement.
Petit conseil que je peux donner à tous les parents, mettez inverser les poignées de porte pour que les enfants ne puissent pas les ouvrir. Et la poignée, c'est pas vers le bas, il faut l'inverser, soit vers le haut pour que les enfants ne sortent pas de la chambre et que ce soit pas dangereux. Allez, petit conseil. Je n'oublierai jamais mon premier baiser.
Mon premier baiser, c'est arrivé assez tard. C'était quand j'ai créé le journal Euphorie et il y a une jeune fille qui avait aimé une histoire. Un fanzine lycéen, voilà, avec des parfums et
des
musiques.
Parfums sur chaque page.
Et il y a une jeune fille qui s'appelait Marie-Noël et qui m'a embrassée parce qu'elle me trouvait désirable parce que j'avais écrit une jolie histoire.
Je n'oublierai jamais mon premier sentiment de liberté.
quand j'ai quitté le Nouvel Observateur.
Bernard Verber, le sixième sens chez Adam Michel. C'est la bande originale avec Leïla Kanoboudadi, avec Joséphine Drey, Daniel Morin, Christophe Bourcier, Charles Ornac et notre invité Bernard Verber. Qui signe chez Albin Michel le sixième sommeil, roman encore une fois ancré, enraciné dans beaucoup d'informations scientifiques. Ça vous a demandé combien de temps de recherche pour préparer finalement l'écriture du livre ?
Alors, je la prépare pas, je commence par écrire l'histoire, et après, au fur et à mesure que je développe les chapitres, je continue à me renseigner. Donc, la documentation se fait dans la prolongation de l'écriture.
Est-ce qu'il peut donc y avoir des théories qui s'écroulent parce que vous êtes parti sur une piste, et finalement, vous vous rendez compte qu'elle n'est pas si fictive que ça, ou à l'inverse, elle tient pas debout à cause de la réalité?
Exactement. Mais en fait, j'écris 12 romans, enfin, celui-là, je l'ai écrit 12 fois en entier, avec d'autres intrigues. Donc, j'ai 12 versions du sixième sommeil qui sont différentes avec d'autres histoires. Il y en a que ça se passe aux États-Unis et tout. C'est juste un peu que le mastermind. Je teste une formule, je regarde si elle marche pas, j'en fais une autre et surtout je récupère pas des bouts de l'ancienne.
Mais vous basez sur quoi pour voir si ça marche ou si ça marche pas? Parce que mastermind, il y a quelqu'un qui vous met les piquets blancs, les piquets noirs.
Alors,
pour savoir si vous
avez des bonnes couleurs. Je donne à lire à des amis qui sont capables de lire des versions très très brouillons et je leur dis qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'es pris par l'histoire? J'ai besoin de le tester parce que des fois on croit que ça fonctionne et puis ça fonctionne pas. Donc c'est pas au lecteur.
Toujours les mêmes cobayes. Ils étaient déjà là pour des fourmis, ils étaient déjà là.
C'est des lecteurs, oui, qui m'ont contacté, qui m'ont dit on aimerait bien lire tes bouquins avant. Alors j'ai dit bah écoutez, je vais vous le donner. Vous allez voir.
C'est pas des amis obligatoirement.
C'est devenu des amis. Il y en a même, il y en a deux qui sont mariés entre temps.
Et je leur envoie. En fait, agence patrimoniale.
Voilà. Bah, c'est des lecteurs.
Non, les deux sont mariés avec lui, non? Il fait arrêt.
Voilà. Ah, c'est moderne.
Internet, ça permet de créer une petite famille de lecteurs connectés. Donc, il y a Facebook, il y a Twitter. Ça me permet d'avoir des gens qui me signalent un peu comment ils réagissent par rapport au livre, qui me donnent aussi des feedbacks, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Et quand je vois que c'est astucieux, je leur dis, vous voulez pas lire la version du prochain et vous me direz ce que vous en pensez.
Et vous parlez beaucoup de ces applications pour déterminer donc l'état de sommeil dans lequel on est. Vous l'avez testé avec votre smartphone, avec le bracelet.
Alors j'ai testé le bracelet, j'ai testé Sleep Cycle sur mon petit smartphone et maintenant je teste WeThings, qui est une boîte française malgré son nom, qui a le meilleur capteur, qui détecte le mieux les mouvements et aussi les battements de cœur durant la nuit. Mais c'est vachement intéressant le matin d'avoir le petit dessin, plus sa note de la qualité de son sommeil. Sinon jusque-là, quand je dormais, je ferme les yeux, puis j'attends, et puis le lendemain matin, au mieux j'ai un rêve.
Je fais quoi? Je prends mon smartphone, mon appareil de téléphone, et j'appuie sur Sleep Cycle.
Enfin, l'application WeThings dont vous parlez, c'est un système qui fonctionne par Wi-Fi, comme le nom l'indique. Voilà.
Comment ça s'appelle?
WeThings.
WeThings. Le W-I et la chose par oui.
Mais
quoi.
Techniquement, ça passe comment? Par le feu, par la part,
c'est
par
sous
le
matelas.
Téléphone?
C'est sous le matelas. C'est une sorte de petit carré, un petit rectangle avec plein de capteurs qu'on met sous le matelas et ça envoie des informations dans votre téléphone et après, le matin, vous avez la courbe de ce qui s'est passé dans la nuit.
Et le docteur a recommandé tout à l'heure pendant la pause l'application Mon Coach Sommeil qui est que sous Android pour l'instant, mais qui est important pour réguler son sommeil.
Il y en a aussi où on peut entendre tout ce qu'on dit de manière sonore, parce qu'il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui ronflent.
Ça s'appelle un magnéto, ça.
Oui, mais ça se déclenche.
C'est en développement pour l'instant.
Ah, ça se toujours un peu en avance.
Ça se déclenche que quand il y a du bruit. Mais ça vous permet d'entendre la bande son de votre nuit de sommeil et il peut y avoir des surprises. Je pense que vous avez tous testé des compagnons de lit qui racontaient des choses étranges.
Ouais, ça peut briser des couples aussi.
Alors,
hein.
Des compagnons, non, mais des filles, oui. Et, des fois, ça ne veut rien dire.
Bah oui.
Ça peut être aussi des graves.
Oui. Mais des fois, les rêves ne veulent pas.
Faudrait coucher avec des humains
aussi.
De temps en temps, Nagui. Hein. Vous verrez. C'est pas mal non plus.
Ouais.
Je vais dire une horreur.
Ouais, non, c'est bon, là, je crois ça.
Je crois que les rêves, de toute manière, nous envoient une information. C'est-à-dire, c'est pas juste un film délirant, c'est pas juste un truc, c'est pas n'importe quoi. En général, c'est le truc auquel on n'a pas fait attention qui vous est resservi dans la nuit, ou alors c'est une manière de se reconnecter à ce qu'on est vraiment. Toute la journée, vous entendez des conneries qui vous influencent, mais en rêve, ça filtre les conneries et ça vous attire l'attention sur les trucs intéressant auquel vous n'avez pas suffisamment fait attention.
Il y a une chose qui, à mon avis, n'est pas une connerie, c'est à la fin de votre roman, vous finissez avec une digression autour d'Hollywood. Ça veut donc dire que Le Sixième Sommeil peut être un film, c'est fait pour être un film.
Et on va en parler dans un instant.
Oui. Je me suis amusé à tourner un petit court-métrage juste après, parce que j'avais vachement envie de voir les images. Et puis, tout le monde en a parlé. Tout à l'heure, j'ai terminé le montage, mais en effet, j'ai envie de faire du cinéma. Moi, j'ai une formation aussi de scénariste de cinéma.
On va laisser. Et voilà. Ouais, et puis, il y a eu le film avec Lelouch. On va laisser Leïla en parler tout à l'heure. Voici d'abord la sale humeur de Daniel Morin.
Pourquoi ça?
Oui, parce que t'as mal dormi. Ça se voit.
Prenons pour commencer quelques nouvelles de notre président bien-aimé. Depuis hier, François Hollande est en Chine. Pourquoi? Pour y causer environnement, climat, réduction des gaz à effet de serre et partenariat. L'occasion pour le président chinois de se lancer dans son premier spectacle comique. Quand on entend les promesses de Xi Jinping, on n'est pas loin pour les Chinois du One Man Show. Aujourd'hui, j'ai rencontré un homme que je respecte énormément, le président de la République française. Je lui ai dit, cher François Hollande, je m'engage à réduire la production des gaz à effet de serre. Quand j'ai signé avec François Hollande le partenariat sur le nucléaire civil, je lui ai garanti un respect total des règles de sécurité. Que les ouvriers seront bien traités. J'ai rajouté que la Chine allait aussi s'ouvrir à une meilleure considération des droits de l'homme.
C'était la chute.
Remarquez, la semaine dernière, hein, c'était pas pire à Moscou, hein, à la suite de la visite de Sarkozy, Vladimir Poutine, lui aussi, s'est lancé dans un petit one-man assez drôle. Nicolas Sarkozy est rentré chez lui. Je qualifierais la visite de l'ancien président de constructive. Intéressante. Quand il m'a demandé la position de la Russie sur l'Ukraine, je lui ai garanti ma volonté de régler le conflit de façon pacifique. Quand il m'a demandé si les droits de l'homme étaient respectés en Russie, je lui ai dit « Oui !» Et j'ai rajouté que pour moi, la liberté de la presse était une priorité nationale. Au même titre que l'opposition politique. Merci. J'ai rendez-vous à Paris dans 3 semaines. Je serai en duo avec le président chinois pour la COP21. Nous y jouerons notre nouveau spectacle intitulé « On vous emmerde !» Allez, pour terminer, nous allons prendre des nouvelles d'Oscar Pistorius, le champion assassin monté sur ressort. Rappel des faits. Saint-Valentin 2013. Oscar tire sur sa copine. Oscar 2014.
C'est nul.
Considéré, condamné pour homicide et emprisonné. Il y a 2 semaines, il sort de prison par anticipation. Aujourd'hui, la justice fait appel. Oscar revient au tribunal. Mais, en fait, il n'a pas besoin d'être là. Il arrive sur le parking, une nana qui se gare sur une place réservée pour handicapés. Moralité, faut pas faire chier Oscar. À demain.
France Inter, Maggie, la bande originale.
Alors on n'en peut plus, on veut savoir ce qui va se passer dans la culture et dans le brouillon de culture de Leïla Kadour-Boudadi autour de Bernard Werber. Qu'est-ce que tu nous as réservé,
Bernard, de l'actu qui vous concerne, des questions, vos réponses à tous et Richard à la musique.
Brouillon de culture.
C'est le bruyant de culture sur France Inter et on commence avec un son, on écoute.
Run, rabbit, run, rabbit, run, run, run.
Avez-vous reconnu, c'est le trailer du prochain film d'un réalisateur que vous aimez beaucoup.
Woody Allen?
Ça pourrait, non?
C'est Miss Peregrine et les enfants particuliers, et c'est un Tim Burton.
Tim Burton, ah oui,
absolument.
Au niveau du rêve, lui, il est costaud. Hein.
Lui, il est pas mal dans l'univers onirique. J'ai lu que vous rêveriez de voir votre roman, Le Sixième Sommeil, adapté par Tim Burton.
Si le journaliste m'a dit qui c'est que vous verriez comme réalisateur, Tim Burton est, me semble, actuellement l'un des rares réalisateurs qui a un vrai monde visuel, comme Fellini, c'est-à-dire, ou comme Dali, c'est-à-dire c'est des univers reconnaissables tout de suite.
Surtout parce qu'il y a Johnny Depp.
Je trouve que c'est un formidable raconteur d'histoire.
Et comment on pourrait adapter ce roman?
Les rêves. Là, il faut laisser, si c'est lui qui réalise, c'est à lui de trouver.
Alors, vous aviez déjà tenté.
Pardon, Leïla, c'est un roman, c'est clairement un scénario, tellement il y a des.
Et oui, c'est pour ça, je voulais avoir votre vision.
Il y a tellement d'images, il y a tellement de. Non?
Ah bah, c'est fait pour qu'il y ait un visuel fort, mais c'est pas moi de le dire.
C'est clairement c'est potentiellement un film, c'est inévitable.
On l'a évoqué tout à l'heure, vous aviez déjà tenté l'aventure cinéma avec Claude Lelouch pour Nos Amis les Terriens. C'est une expérience douloureuse, le cinéma?
Alors, d'abord. surtout, ce qui m'a un peu gêné, c'est que Claude Lelouch, en tant que producteur, ait confiance en moi en tant que réalisateur. Et donc, j'aurais rêvé que le film ait un plus grand succès. Je crois qu'on a fait 100 000 entrées sur Paris. C'était sorti la semaine de l'élection de Sarko, donc tout le monde était obnubilé par la politique.
Ça, c'est pas Bush chez Sarko.
Voilà, n'avait pas envie de voir du tout des histoires d'extraterrestres. Et le principe d'un documentaire sur l'espèce humaine...
À la maison.
Un documentaire sur l'espèce humaine fait par les extraterrestres, je crois, n'a pas été compris. C'est-à-dire, j'ai tellement voulu faire original que j'ai raté un peu le cœur de cible. Et donc, c'est ma faute.
Vous avez déclaré, Lelouch, comme moi, c'est un outsider.
Oui, bah, on est hors du système et puis on ne joue pas avec le système, mais par contre, on est libre. Du coup, on paye le prix de la liberté.
On paye le prix fort, c'est-à-dire ne pas forcément.
On n'a pas le soutien du petit milieu parisien.
Mais ça veut dire quoi, pas être dans le système pour Claude Lelouch quand même? Parce que dans ses films, le dernier, il y avait Johnny, il y avait Eddie Mitchell, il y avait Sandy, il y avait un pur casting.
Et puis là, il y a 1+1 avec Jean Dujardin et Elsa Zieberstein qui va sortir en décembre.
C'est pas vraiment. On peut pas dire que ce soit hors circuit. C'est pas.
Lelouch, il finance lui-même. C'est l'un des rares producteurs réalisateurs qui finance lui-même ses films. Donc la plupart des films sont financés par les chaînes de télévision ou par les grosses boîtes comme Pathé, Gaumont, tout ça. Et lui, de temps en temps, il se fait aider, mais la plupart du temps, il y va tout seul, à l'arrache, avec ses économies. Et
mais il n'est pas le seul.
Qui d'autre?
Mais...
Il n'y en a pas tant que ça.
Moki, merci.
Oui, mais du coup bah oui.
J'ai vu
ça. Il n'est pas le seul.
Mais
pour eux, c'est beaucoup plus difficile.
Je suis d'accord.
Pour tous ceux qui ont des subventions d'État, des subventions, des aides et tout le système.
Mais dans votre histoire, Bernard, il y a quand même beaucoup une histoire d'exclusion. Vous dites ça souvent.
J'ai été
exclu du Nouvel
Obs. Non,
je me sens exclu du milieu littéraire.
Pas du tout.
Il n'y a pas quand même ce syndrome.
Non. Par contre, je crois que la position intéressante, c'est être hors du système, parce que c'est hors du système que, un, on est libre, et deux, on peut faire travailler son imagination. Dès que vous êtes dans le système, vous devez faire comme les autres, et vous devenez une sorte de fonctionnaire de la culture, et à ce moment-là, vous tournez en rond. Donc, que ce soit Lelouch, que ce soit moi, on a choisi cette position, et je m'en plains pas du tout.
On
ça
en
sera
parlera.
À refaire, je referai exactement
on
pareil.
On en reparlera ici par avec Claude Lelouch, qui sera notre invité le 3 décembre.
Mais ça oui, sera intéressant mais par contre, même si je dois donner un conseil à un jeune artiste créateur, c'est ne rentrez pas dans le système, parce que vous allez vous faire baiser par le système. Ça coûte plus cher, on en prend plein la gueule, mais la position intéressante et marrante, c'est en dehors du système.
D'ailleurs, Claude Lelouch va ouvrir une école de cinéma gratuite à Beaune, ça c'était pour la petite info. On poursuit avec un autre son.
En travers de la rue. Tout le monde s'était arrêté, personne ne bougeait plus.
Luigi.
Bernard.
Alors, oui, c'est un soir, on dînait avec Louis Bertignac. Puis je lui dis, je crois que faire une chanson, ça doit être à ma portée. Et puis il m'a dit, fais-en une. Alors j'ai pris un papier, on écoutait les actualités. Je lui avais dit, je crois qu'on est une sorte de troupeau de gnous, on avance, on ne sait pas où on va. Et puis au final, ça se peut qu'il y ait une falaise au bout et qu'on chute tous.
Vous aviez mangé quoi?
on avait bu, surtout. On avait bu, on était un peu en état de transe. Mais on a eu cette vision. Je lui ai dit, je vois bien tous ces animaux qui traversent l'Afrique, la savane, et qui ne s'arrêtent pas parce qu'ils sont poussés par les autres derrière, on va dire par les ancêtres. Et en même temps, ils sont tirés par quelques personnes devant qui leur disent, attendez, devant, je sens qu'on peut y aller. Et voilà, j'ai raconté cette histoire, il m'a dit, ok, on en fait une chanson. Puis j'adore Louis Bertignac, parce que c'est un être humain extraordinaire.
Et vous l'avez coécrit avec Raphaël Enthoven.
Voilà, je crois qu'il a finalisé un peu, j'ai écrit tout le truc, il a terminé.
Qu'est-ce que vous écoutez en ce moment? Parce qu'à la fin du livre, vous indiquez une liste de lectures musique écoutées pendant l'écriture du roman.
C'est assez intéressant.
Alors,
je suis tombé fan de Woodkid, parce que Yann Lemoine, je trouve que c'est la musique de film. Alors, j'adore les musiques de film. Et un Français qui fait des musiques de film et qui arrive à faire encore mieux que les Américains, je trouve que ça méritait d'être connu. Et j'ai écouté Woodkid pour écrire Le Sixième Sommeil.
Et on écoute un son justement d'un artiste que vous aimez beaucoup.
Qui n'aime pas?
Mais il a une histoire avec lui.
Oui.
On a reconnu.
Vous voulez que je vous raconte?
Peter Gabriel.
Ah oui.
Vas-y. Bon,
d'abord, pour moi, quand j'étais jeune, il y avait les Beatles et Rolling Stone, point. Et tout d'un coup, je retrouve Genesis et Nursery Crime. Et ça m'a ouvert la tête, ça m'a explosé la tête. J'ai adoré ce truc. C'est-à-dire, écouter la musique me mettait en transe. Et quand un jour, j'ai remis un prix de jeu vidéo à Peter Gabriel, je lui ai dit, écoutez, je dois vous dire, c'est une grande émotion pour moi. Vous êtes mon musicien préféré et pour moi, le plus grand auteur de tous les temps. Et je lui tends le truc et il me dit, vous devez savoir que vous êtes aussi mon écrivain préféré. Alors j'ai dit, écoutez, j'en demandais pas tant. En parlant anglais, français, c'était bizarre. Et il me dit, j'en demandais pas tant. Il me fait, mais si, votre livre a été traduit en anglais. Je l'ai lu, on est tout un groupe de gens à connaître en Paris of the Ants, enfin la version. Et du coup, on s'est retrouvés le soir à dîner ensemble. Et lui et moi, nous divorcions, on s'est donné des conseils pour gérer le divorce.
Et, ça crée des liens.
Et, ouais, et il m'a donné des très bons conseils qui m'ont permis de réussir mon divorce, comme lui-même a réussi le sien.
Et une petite dernière pour le spécialiste du sommeil que vous êtes. Finissez la phrase suivante. Dormir nu améliorerait...
Oh là là,
ça va faire plaisir à...
Son cuir chevelu.
C'est pas au niveau du cuir chevelu que ça se passe. Daniel, une idée ?
Non.
Ouais. Ça améliorerait la qualité du sperme. Voilà, c'est une étude américaine
le
qui a.
Des draps
non, c'est simplement
je me disais aussi, je ne sais pas d'où ça venait, mais ça vient de là. Alors,
c'est ça. La fertilité, la fertilité de ces hommes-là serait meilleure. Pourquoi ? Parce que vous ne dormez pas serré chaud. Dans
oui,
des sous-vêtements. Ah,
attendez, non, c'est plus compliqué que ça. C'est qu'on a intérêt à dormir dans le milieu le plus froid possible. Ouais. Plus on est dans les milieux froids, plus on prend des douches froides, plus ça oblige notre corps
de toute façon,
à réagir.
C'est pas bon. C'est pas bon de dormir dans une chambre surchauffée.
Permettez-moi quand même de corriger. C'est un lien avec les sous-vêtements, parce que le sous-vêtement qui tient, affecte donc la fertilité et elle augmente même les risques de naissance prématurée pour les futurs bébés.
Voici Tame Impala avec Cause I'm a Man. Ça tombe bien, je suis un homme après tout ce que tu viens de dire.
Moi
bah oui, sur les bourses.
On parle du 440 ?
Lost in the moment for
Tame Impala avec ce titre Cause I'm a Man. Bernard Werber est notre invité. Il signe ce très bon roman qui s'appelle Le Sixième Sommeil chez Albin Michel. Quelle est la part du vrai? Quelle est la part du fictif? Quelle est la part de la réalité projetée de ce qui va nous arriver ou pas? En tout cas, c'est passionnant. Et il est clair que vous ne dormirez plus de la même manière, que vous allez essayer vous aussi de gérer votre sommeil, vos rêves et de peut-être, pourquoi pas, rentrer en contact avec le petit garçon ou la petite fille que vous étiez il y a une vingtaine d'années. Ce sont des questions rapides avec des réponses rapides. D'accord. Maintenant, Bernard Werber, c'est parti, Leïla.
On ne lit pas Werber pour s'offrir un voyage au pays du style. C'est une des critiques que j'ai lues à votre sujet. Vous répondez quoi?
Mon style, c'est la simplicité et l'efficacité.
Daniel.
Un livre de cuisine d'anticipation.
Un livre, vous voulez que je vous cite un livre de cuisine d'anticipation?
Non, quand est-ce que vous allez en écrire hein?
Je suis nul en cuisine. Pour moi, ma seule cuisine, c'est les mots. Ouais. Tout le reste, je suis nul. Même une omelette, ça me pose des problèmes.
Joséphine.
Vous avez déjà fait un rêve prémonitoire?
Oui, j'ai rêvé de retraite Saint-Terre qui avait des problèmes.
Waouh!
Christophe Boursier.
Ah,
c'était le thème de votre roman L'Ultime Secret. Avez-vous vraiment découvert le point de l'orgasme?
J'ai déjà eu beaucoup d'orgasmes, mais le point, je ne l'ai pas visualisé dans mon cerveau. Mais je sais, oui, c'est dans le corps calleux, c'est un tout petit endroit. Si on met un petit choc électrique, tout perd du sens et on n'a envie qu'un deuxième choc électrique. C'était le thème de L'Ultime Secret.
Leïla.
Quel est le plus beau compliment qu'ait pu vous faire un de vos lecteurs?
Je n'aimais pas lire et grâce à vous, je m'y suis remis.
Daniel.
La viande de gnou grillée ou en sauce?
Je suis pratiquement végétarien.
Ah, dommage.
Joséphine.
Le dernier rêve que vous avez fait cette nuit, par exemple, vous vous souvenez de votre rêve?
Alors, pas de suite cette nuit, mais celui d'il y a la semaine, enfin, pas la semaine, d'il y a trois jours, c'était qu'il y avait une inondation chez moi, je sortais, et en fait, il y a un tsunami dans la rue, je sortais, et en fait, je rejoignais une plage, je me disais, bon, ben, j'ai bien fait de prendre mon maillot, je me baignais directement dans la mer.
De toute façon, à la fin du livre, il y a des pages laissées vierges pour pouvoir écrire ses rêves. Des excuses à présenter, Daniel Morin, après toutes les horreurs proférées aujourd'hui?
Absolument. Désolé pour tous nos auditeurs nord-coréens, ils sont nombreux, hein, qui n'ont jamais lu un livre de Bernard Werber. En revanche, profitez de la vie, les amis, dans votre pays. Je vous promets que la dictature sous Nagui, c'est pas facile tous les jours. Désolé pour tous nos auditeurs qui n'avaient pas pris de drogue ce matin et qui n'ont rien capté à cette émission. Heureusement, à suivre Philippe Bertrand qui va nous ramener les pieds sur terre. Désolé pour Georges Bouche dont la mémoire, l'œuvre, le talent et même les grolles, la descente de Siag ont été souillés. Georges, mon pote, tu auras toujours une place dans mon cœur et bien entendu, comme beaucoup, dans le lit de Leïla. Désolé pour Leïla qui, selon mes informations et celles de Nagui, n'a jamais connu l'orgasme en même temps. Ouais. Tu verras, c'est très surfait, surtout avec Nagui. Enfin, je dis ça.
Demain, c'est Eddie Mitchell qui sera notre invité avec Sanseverino en live. Merci Bernard Werber.
Merci à vous.
À bientôt et bonne route avec ce Sixième Sommeil chez Albin Michel.